Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on avance dans notre étude comme chaque semaine. Et donc là, on a une nouvelle paracha, un nouveau chapitre qu'on lit dans nos communautés qui est Shoftim. Il y a plein de choses. Et dans cette paracha, il y a une question que pose le Harizal. Par rapport à ce texte, il dit, on voit que quand on a des crimes de sang, quand on a des choses très graves dans une ville, dans une communauté, c'est lié aussi au fait de comment les gens se parlent les uns les autres. Il y a le fait qu'il y a des conflits, y compris par la parole. Alors, c'est évidemment, comme toujours avec la Torah, très surprenant, parce que bon, entre les deux, quand même, normalement, il y a une grande distance, et c'est sur ça que vous voulez intervenir.
Exact, exact. On a un passouk en effet au début de la paracha. Alors la traduction classique, c'est la chose suivante qui palait mimcha d'avoir la mishpat ben dam le dam ben dinodin, c'est-à-dire lorsque sera caché devant toi une problématique de jugement entre un sang pur, un sang impur, entre ben dinodin, entre savoir s'il faut acquitter quelqu'un, s'il faut le condamner. Ben Negalanega, à l'époque, c'était les problématiques de Metzora, c'est-à-dire de personnes qui avaient ce qu'on croit être la lèpre, c'est-à-dire donc ces fameuses affections de la peau qui déterminaient si oui ou non elle était impure parce qu'elle avait fait de la médisance. Et le texte continue, il dit « Ou alors, divrei rivot bishavecha, ou alors s'il y a des conflits, des querelles à l'intérieur de tes portes, alors à ce moment-là, dit le texte, vekamta valita, tu ira vers, en effet, le Sanhedrin, vers le grand tribunal, vers ceux qui connaissent, pour qu'ils t'aident à résoudre ton problème. » Donc, a priori, le verset dans sa première lecture, c'est quand tu seras confronté, en effet, à toutes sortes de questions sur lesquelles tu n'es pas sûr d'avoir la bonne réponse, alors tu viendras vers le Sanhedrin, vers les maîtres et les références du peuple d'Israël. Le Ari HaKadosh a une autre lecture, et il dit, en vérité, dans ce verset, on voit autre chose. Il dit, lorsqu'il y aura justement des problématiques liées au sang, des problématiques liées à des maladies, des problématiques liées à des conflits, eh bien, tu vas dire, mais comment est-ce possible? Virgule, divrei rivot bishavecha, voici la réponse que te donne le verset, car il y a en effet des querelles, des tensions à l'intérieur de tes murs, parce qu'il y a en effet des disputes, de la marloquette à l'intérieur. Et on revient, et c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué, je pense, mais c'est quelque chose de tellement important, à nouveau, sur l'impact que peut avoir la notion de marloquette, c'est-à-dire les tensions qui peuvent exister entre les individus à l'intérieur du clan Israël, sur des conséquences qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors c'est vrai qu'on va dire, mais bon, au fond, pourquoi? Quel est le rapport? Les gens sont là, ils sont en conflit, ils se disputent. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue? Rappelons-nous que justement le début de la paracha nous dit Shoftim veshotrim titelecha bechol shavecha veshavtu et amam mishpat et tzedek, que justement la Torah nous dit que nous devons installer un système de justice qui va juger les gens de manière juste, c'est-à-dire évidemment c'est la moindre des choses, vous allez me dire non, mishpat tzedek, c'est-à-dire on va se poser la question de savoir s'il est juste d'agir de cette manière, c'est-à-dire on ne va pas juste s'arrêter à la stricte application de la loi, mais on va essayer d'intégrer et d'inscrire la totalité de tout ce qui peut se jouer à l'intérieur d'un conflit, à l'intérieur d'une situation, et en fonction de ça, eh bien, les choses seront dites par le Beit Din. Quelque part, c'est au fond construire un état d'esprit à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est-à-dire que cette notion du jugement, lorsqu'il y a conflit, eh bien, lorsque l'on cherche à être juste, c'est-à-dire à réfléchir de manière beaucoup plus vaste à tous les enjeux, à tout ce que représente à un moment une condamnation, à tout ce que représente à un moment une manière de gérer telle et telle situation, alors évidemment, qu'est-ce qu'on rentre à l'intérieur de là ? On rentre l'humain. C'est-à-dire, on n'est pas juste dans, voilà, le texte dit, la personne a fait, donc évidemment, il a fait, donc voilà, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, point barre, et on passe à autre chose. Non. Et malheureusement, si en effet, eh bien, on oublie cela, eh bien, c'est à ce moment-là que le monde des conflits se met en place. C'est à ce moment-là où, en effet, eh bien, malheureusement, chacun, parce que ce sentiment de réfléchir qu'est-ce qui est juste ne fait plus partie de la société dans laquelle on se trouve. Et évidemment, à partir de là, eh bien, il ne s'agit pas ici de sanctions. C'est-à-dire qu'on n'est pas, le texte n'est pas en train de dire ben, « si vous faites ça, voilà ce qui va se passer ». Au fond, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate ? Et on parle ici de ce que le peuple juif vit, c'est-à-dire quelque chose qui est au fond profondément injuste. Quand on voit de la manière dont le peuple d'Israël est traité dans l'histoire, eh bien, il y a quelque chose qui est du domaine de l'injustice profonde. Le cas d'Israël a toujours, là où il a été, essayé de donner, de faire, d'agir. Lorsqu'il est en train de se battre, c'est avant tout pour se protéger par rapport à un futur. Il n'y a pas de volonté d'agression pour agression, etc., etc., etc. C'est ce que l'on voit. Et pourtant, eh bien, on voit ô combien le cas d'Israël se confronte à quelque chose avec des mots dans lesquels il dit mais c'est pas juste. C'est pas juste. Comment se fait-il que on va nous comparer, là je reprends un petit peu l'actualité, à la Russie qui a décidé, elle, d'attaquer, alors que nous, en vérité, on n'a fait que se défendre et encore, et essayer de se prémunir face à des personnages qui clairement disent « Ben non, on n'est pas intéressé par vous, vous n'avez pas votre place dans l'univers, vous ne devez pas être là. » Eh bien, ce sentiment de profonde injustice que l'on peut ressentir, eh bien, nous dit le texte au fond, il faut peut-être s'interroger si nous-mêmes, on n'a peut-être pas oublié à un moment de faire pénétrer à l'intérieur de notre peuple cette dimension-là. C'est-à-dire de se dire, mais est-ce que c'est juste d'agir de cette manière ? Même si c'est permis, mais est-ce que c'est juste ? Je vais vous donner un exemple très simple à travers une histoire. On rapporte qu'un jour, un rabbi passe par une petite bourgade et se fait inviter là-bas par le fermier, celui qui a, voilà, le fermier riche du village, et puis il le reçoit très très bien. Et puis, le rabbi, sur la route, en train d'arriver dans le village, avait croisé une petite charrette sur laquelle une famille pauvre était. Et cette famille disait, oui, ben nous, ça fait quelques mois déjà qu'on n'a pas payé notre loyer, alors ça y est, on a été expulsé et on cherche un endroit où s'abriter. Et il est reçu donc par ce fermier riche, et qui au passage est celui qui justement vient d'expulser. Et ce fermier, on lui dit, Rabbi, j'ai une question, j'ai eu un souci dans la ferme au niveau d'une grange, j'essaie de comprendre, de réfléchir quel est le message que Dieu veut me donner. Et le rabbi lui dit, réfléchis, qu'est-ce que tu viens de faire dans un... Voilà, très récemment, qui peut être. Et cet homme commence à réfléchir, et puis on lui dit, oui, bien sûr. Et il lui dit, je me rappelle qu'il y a 15 jours, le vendredi soir, au moment de faire le motzi, au moment de faire la bénédiction sur le pain, j'ai oublié de faire, vous savez, cette petite trace qu'on a l'habitude de faire sur les chalotes, sur ces pains, avant de faire la bénédiction. Oui, voilà ce qu'il a trouvé. Évidemment, le rabbi est là et dit, quel drame. Parce que tout simplement, dans sa tête, il avait décidé que ce qu'il a fait vis-à-vis de ses pauvres gens, c'était normal. Parce que tout simplement, ça l'arrangeait. Et donc, il ne pouvait même pas imaginer qu'au fond, ça pouvait poser problème, tellement il était dans ses certitudes. Eh bien, c'est un petit peu ça notre enjeu. Vous avez souvent des personnes qui agissent d'une certaine manière et qui sont capables de se justifier complètement et qui ne se posent pas la question de savoir « mais est-ce que c'est juste ?» Oui, c'est vrai, l'autre n'avait pas payé, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment c'est pour autant qu'il faut le mettre sur une charrette avec toute sa famille sans qu'il ne sache où aller ? Je comprends, bien sûr, mais d'un autre côté, le fait même de ne pas se poser la question si son comportement était correct, eh bien, montre qu'il y a un travail à faire. Et ce travail doit commencer par le haut. Il doit commencer, en effet, avec les chauffe-team, avec ceux qui jugent, avec ceux qui ont des responsabilités, qui doivent introduire à l'intérieur du peuple d'Israël cette notion du tzedek, de quelque chose non pas qu'il y ait du mishpat. Le mishpat, c'est la loi dans sa stricte application. Et le tzedek, c'est faire la justice, essayer d'être juste. Et le Hari nous dit, si malheureusement, on constate qu'on vit des choses qui nous semblent être profondément injustes, eh bien, interrogeons-nous, et ça c'est le propre du peuple d'Israël, c'est que quand il est confronté à une situation, il s'interroge et il essaye de voir comment il va se parfaire. Et je vais conclure là-dessus avec une idée très rapide du Rav Dessler, qui nous dit qu'au fond, un des enjeux majeurs, et on vient de rentrer maintenant dans le mois de Elul, le mois qui précède Rosh Hashanah, eh bien dans la vie, c'est de savoir quelle va être la lecture que l'on fait des événements auxquels on est confronté. Est-ce qu'on en fait une lecture qui nous permet de grandir, d'évoluer, de devenir des êtres un petit peu mieux ou non? Ça, c'est le choix que l'on fait. Et c'est là, en effet, où la Torah nous dit, eh bien, soyons capables d'avoir la bonne lecture pour que celle-ci crée chez nous une dynamique positive qui, nous l'espérons très fort, nous pourra entraîner au niveau personnel comme au niveau collectif que des conséquences extrêmement belles et positives.
Quel travail, travail de toute une vie, hein, Rav Lemel, ce que vous nous proposez. Vous avez brassé en une dracha des concepts comme juste, injuste, mais bon, mal aussi. Et même vous aviez dit au tout début, pur, impur. C'est très très dur, hein, pour nous à notre niveau de savoir. Moi par exemple, s'il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot intègre. Tu peux te tromper, mais au moins est-ce que tu es sûr que tu as été... Pardon ?
C'est ce que le verset dit, Tamim Tiei Machem Elokecha, est intègre avec Dieu, c'est-à-dire, oui, l'intégrité. Voilà. C'est... Mais ce sont des choses qui se travaillent. Hein.
Toute une
c'est
vie.
Un travail de vie. C'est un travail de vie. En effet, l'idée, c'est de ne pas voir le résultat que l'on devrait atteindre, mais ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et commencer par ça, tout simplement.
Comme on va déjà faire une chose, avec votre permission, c'est qu'on va déjà commencer à essayer. Ça sera déjà très bien. Moi, je parle pour moi, hein. Et par exemple, dès ce soir, on a une belle soirée de Shabbat qui nous attend. Essayez déjà de faire des choses bien. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bonne reprise à tout le monde. Chodesh Shalom Vorar. Que le mois de Elul nous permette de nous renforcer et de nous rédimer et de puiser de nouvelles forces pour l'année qui vient.
Le roi est dans les champs.
Et nous avec lui.
J'aimerais bien, c'est vrai bien qu'on soit avec lui, mais c'est difficile. Mais c'est l'Admour Hazaken qui dit ça. Il dit là, Elul, le roi, il sort du palais. Il faut lui parler maintenant parce qu'il est pas, il est là, il est dans les champs. Rav Mordechai, ah ben justement, voilà, comment on écoute. Alors c'est le sujet que vous voulez aborder ce soir parce que dans notre parasha Shoftim, il y a un passouk qui nous dit que il faut écouter ce que disent, faut pas dévier. Il faut écouter, il faut pas faire. On l'avait déjà dit.
Ce que disent les sages. Pardon.
Pardon, Mordechai, vous m'avez interrompu.
Oui, pardon, il est ce que disent les sages. Il faut écouter ce que disent les sages.
Et on avait déjà, d'ailleurs, on avait une idée comme ça qui était dans, je crois, c'est vous l'expert, mais dans deux, trois parachats précédents, on disait tu vas ni à gauche ni à droite. Tu fais ce qu'on t'a... Et tu rajoutes pas. Tu vois où on est. Mais alors là, il y a un mot très étonnant d'un très grand érudit qui s'appelle Rashi et qui, normalement, est quand même quelqu'un qu'on écoute pour sa rigueur et sa clarté, qui dit, même les sages, même s'ils te disent que gauche est à droite et droite est à gauche, c'est-à-dire même si ça n'a pas de sens, ça froisse ton bon sens, tu dois écouter. Alors, nous, on nous dit toujours qu'il faut que notre étude, elle est très... elle n'est pas comme ça, quoi. L'étude juive, au contraire, elle veut comprendre absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oui, on est perméable à l'idée qu'il y a des choukim dans la Torah, c'est-à-dire des lois qui échappent à la logique humaine. On est perméable à cette idée, et on accepte même cette idée-là, et on comprend que la sagesse divine peut dépasser de très très loin la sagesse humaine, et que donc il y a des lois de la Torah qui dépassent de très très loin la sagesse humaine et qui ne sont pas intuitivement compréhensibles par les humains. Mais là, ici, au chapitre 17, au verset 11, dans Parashat Shoftim, on nous dit que lorsqu'on aura un problème, on va aller voir, on va consulter le Kohen Agadol, le Chacham, le sage, l'érudit, le grand de la génération qui va nous éclairer, et là, le Pasuk 11 dit... C'est d'après la Torah, c'est-à-dire l'enseignement qu'il va t'enseigner, et le mishpat, c'est-à-dire la loi qu'il va te délivrer, t'as assez, tu vas agir, et tu ne vas t'écarter, tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils vont te dire, de ce qu'ils te disent, yamin ou smol, à droite ou à gauche. Et Rashi explique, il dit, même s'il te dit que ta droite est à gauche et que ta gauche est à droite, et encore plus évidemment, s'il te dit que la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. Alors on y perd ses directions, parce que si quand je pense quelque chose à droite, il me dit que c'est la gauche, ou quand je pense à gauche, il me dit que c'est la droite, je dois l'écouter, je ne serais pas sûr que si je pense à droite et qu'il me dit que c'est à droite, peut-être c'est la gauche. Alors, c'est ce qu'il me dit, le sage. Peut-être, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Alors on est en train de me dire ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que, et il y a eu des sages comme ça dans notre génération, il y a eu Raphaël Kanevski, il y a des gens d'une immensité spirituelle, morale, d'une hauteur absolument extraordinaire, qui incarne ce verset-là. Le Chacham, le sage, c'est quelqu'un qui nous écoute, et c'est quelqu'un qui est très souvent contre-intuitif. Il est capable de me dire des choses qui vont complètement contre mes intuitions. Il ne s'agit pas ici de ce qui a été dit au sujet de Josué, Yoshua, qui est nommé par Moshe Rabbeinu pour diriger le peuple juif, et qui va aller contre le rouard, l'état d'esprit de chacun d'entre nous. Comme si le chef, en tant que guide parfois, il doit parfois bousculer les certitudes des gens qui le dirigent. Non, là ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que dans l'expérience intellectuelle que je fais dans l'étude, dans ce que je développe comme compréhension, je vais avoir des doutes. Dans ma vie aussi, je vais avoir des doutes. Et le Chacham, le sage, il va me dire des choses qui sont contre-intuitives. Il doit être capable de me dire des choses contre-intuitives. Le Kli Yakar, qui est un élève du Maharal de Prague, explique pourquoi. Il dit, il faut savoir que dans le Sanhedrin à Gadol, dans le grand tribunal rabbinique qui dirigeait le peuple juif, la haute cour rabbinique qui dirigeait le peuple juif, il y avait là-bas des gens qui étaient capables de donner autant de raisons de rendre pur un reptile qui est teinté par la Torah que de rendre impur un reptile. Donc soit autant de raisons de rendre impur que de raisons de rendre pur. Ça veut dire qu'on acceptait des gens qui étaient capables d'expliquer pourquoi la Torah rendait impur tel reptile, mais il fallait qu'ils expliquent pourquoi la Torah avait aussi des raisons de le rendre pur. Et il fallait qu'ils expliquent pourquoi il y avait plus de raisons de le rendre impur que de le rendre pur. Et donc, il fallait qu'ils soient capables de donner une image complète de l'interdit. C'est-à-dire qu'en vérité, il fallait qu'ils soient capables d'expliquer à la fois pourquoi c'est interdit, mais en même temps, pourquoi ça aurait pu être permis. Et le Kli Yakar explique pourquoi. Et regardez ça, c'est absolument extraordinaire. Le Kli Yakar dit, s'il n'a pas cette capacité, s'il ne sait pas faire ce genre de choses, il ne pourra pas faire une chose qui est tout à fait cardinale dans l'expérience des dirigeants spirituels du peuple juif. Il y a des moments où les dirigeants du peuple juif vont dire des choses qui s'opposent à la Torah elle-même. Par exemple, à un moment de Pourim, où les Juifs sont menacés d'extermination, Mordechai dit aux Juifs, c'est vrai que là, on va jeûner le jour de Pessah. À Pessah, on a une mitzvah positive de manger de la Torah, de manger de la matzah.
C'est la même chose.
Oui, la même chose. De manger de la matzah. Le lapsus, révélateur. Comme dit exactement Thiers, c'est toujours très bien réussi. On a une obligation positive de manger de la matzah. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a une obligation positive de ne pas manger de la matzah. Pour que cette gymnastique soit faite dans le sens de la vérité, pour qu'elle révèle la vérité de la Torah au moment où elle est dite, il faut que le Chacham soit capable de dire pourquoi un objet, un animal, un geste est interdit, mais aussi pourquoi il est permis. Il doit être capable d'expliquer pourquoi la Torah a dit que c'était interdit et pourquoi la Torah a expliqué que c'était permis. C'est-à-dire qu'il y a ici une gymnastique intellectuelle qui repose en fait sur une capacité d'exploration totale de la sagesse divine, je dirais. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une capacité d'annulation de ses propres intuitions. On dirait en un mot, si le Chacham ne peut pas annuler ses propres intuitions, il ne pourra pas comprendre pourquoi, dans certains cas, il faut être contre-intuitif. Et je vous donne un exemple très simple, qui est même très contemporain. On consulte aujourd'hui les grands du peuple juif sur les drames que nous vivons aujourd'hui, ce déchirement que chacun d'entre nous ressent pour les otages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la halakha nous demande de faire? Et quand on écoute les grands du peuple juif sur le sujet, on se rend compte qu'ils sont capables, comme d'ailleurs à l'époque dans Thébé où ils avaient été consultés et dans d'autres occasions, de dire des choses précisément qui vont à l'encontre complètement de nos intuitions. Ils disent d'un côté qu'effectivement il faut négocier, il faut continuer de négocier. Quoi qu'il arrive, il faut continuer de négocier, ou en tout cas de tenter d'ouvrir des espaces de négociation. Mais ils disent en même temps que cette négociation, elle a une limite du point de vue de la halakha, et une limite qui a été inaugurée par le rapt du Maharam de Rothenburg par l'empereur Rodolphe. C'est-à-dire qu'il y a ici tout un dispositif, et ces dispositifs-là sont des dispositifs qui vont à l'encontre à la fois de notre humanisme qui dit « libérons les étages à tout prix », mais qui vont également à l'encontre de la logique politique et militaire qui dit « on ne va pas négocier ». Et vous voyez, c'est ça finalement la Torah, la force que la Torah donne. Et c'est cette force-là qu'il faut avoir. Et donc c'est ce que nous dit ici ce verset. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous demande de nous adresser à des êtres humains. Ce sont des chacham, des chachamim, des sages, qui sont des êtres humains qui s'adressent à d'autres êtres humains. Ça n'est pas ici Dieu qui parle et qui donne des choukim, des lois inaccessibles à l'intelligence humaine. C'est Dieu qui... ce sont des sages qui parlent à des êtres humains et des êtres humains qui s'adressent à des sages. Et donc, cette idée, elle est tout à fait fondamentale parce que c'est une idée de base de la Torah. Elle fonde, finalement, l'approche de la Torah orale. C'est-à-dire que la Torah écrite est incompréhensible sans la Torah orale, mais la Torah orale se comprend en ceci qu'il y a aussi l'oralité de la Torah orale. C'est-à-dire que parfois, les sages vont nous dire des choses qui ne sont pas inscrites dans les textes, qui sont inscrites dans leur compréhension de la Torah. Et donc, on vient nous dire ici, finalement, que notre relation au grand chachamim, au grand sage, est à la fois une relation discursive, une discussion dialectique, c'est-à-dire que, comme on le dit, quand un sage dit une Torah, Zoï Torah va dire Selam Dat. C'est une Torah que vous avez dit, mais je veux apprendre. Donc, on va poser 1000 questions. Mais il y a un moment, il faut comprendre la distance qui peut nous séparer de certains hommes, comme avec Raphaël Kanevski, on l'avait bien vu. Et c'est ça, c'est un des grands fondements, on va dire, du judaïsme, cette gestion de la verticalité, savoir gérer la verticalité, même pas seulement par rapport à l'être divin, mais également par rapport aux grands du peuple juif. La capacité qu'ils ont de pénétrer le texte de la Torah, c'est la sagesse divine, leur donne une capacité de nous éclairer de manière complètement inattendue. C'est fondamental et c'est un des nœuds de cette paracha. Il y a encore beaucoup de choses dans paracha de Shoftim. Évidemment, c'est une paracha qui parle du système judiciaire, dans lequel on parle des juges, ce que doivent être les juges, ce qu'ils doivent être capables de faire. On mesure, quand on lit cette paracha, la distance qui nous sépare de ce qu'on voit aujourd'hui dans le système judiciaire israélien. On est dans une génération où on a du mal à comprendre la hauteur et la force du système judiciaire tel qu'il est conçu par la Torah. Voilà, Shabbat Shalom. Je vous invite à réfléchir beaucoup sur cette question. Retenez bien l'adresse de cette réflexion, chapitre 17, verset 11. Il y a autant de commentaires que de commentateurs sur le sujet et c'est vraiment un sujet tout à fait passionnant à explorer. Shabbat Shalom à toutes et à tous.
Rav Mordechai, passionnant en effet, retrouver des repères. Dieu sait que c'est vraiment le mot M-A-U-X de notre société. Et pour le coup, on essaye souvent de nous faire croire des choses. On se dit, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Et je vous remercie pour ces quelques paroles qui nous ont beaucoup éclairés à Jérusalem. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, bon mémoire.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Guy. Bonsoir Rav Guy, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Guy, alors, vous voulez faire un petit pas de côté par rapport à notre paracha, parce que, bon, on le sait, les parachiotes sont toujours liées plus ou moins à la période à laquelle elles tombent. C'est pas un hasard, c'est comme ça. Lié au fait, y a toujours, ça correspond au calendrier. Et il se trouve que là, vous voulez nous parler de Elul, qui est un mois très important, évidemment. Mais vous allez nous dire pourquoi, je ne sais pas moi qui parle à votre place, mais dans la paracha, justement d'ailleurs même au tout début de la paracha, il y a un lien direct que vous allez nous expliquer maintenant.
Tout à fait. Alors, effectivement, d'abord, le début de la paracha, c'est « Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha ». Des juges et des policiers, tu placeras devant toutes tes portes. Donc évidemment, il s'agit d'installer un système judiciaire répressif pour sanctionner ou pour encourager, protéger la population et sanctionner les contrevenants. Maintenant, il y a énormément de règles qui sont liées à cela, mais ce que l'on peut comprendre et retenir, c'est qu'il y a aussi une allusion, un remez, puisque cette paracha se lit toujours au début du mois de Elul. Elle vient nous rappeler que le mois d'Elul est un mois où il est nécessaire de placer des juges et des policiers, non pas seulement dans les portes en sens littéral, mais au niveau de nos sens. Nous avons 5 sens qui nous permettent de percevoir un certain nombre de choses autour de nous. Il faut que pendant cette période, on redouble de vigilance et que l'on revisite chaque chose que nous entendons, que nous disons, que nous apercevons, c'est-à-dire nous soyons extrêmement vigilants sur tout ce qui nous entoure, en particulier pendant ces quelques semaines, ce mois d'Elul qui nous sépare de Rosh Hashanah. Pourquoi le mois d'Elul est un mois si important? Alors il faut voir l'histoire, revoir l'histoire juive. Lorsque Moshe Rabbeinu fait descendre les Louchot, les tables de la loi, c'est le 17 Tammuz. Il est resté 40 jours dans la montagne sans manger, sans boire. Et lorsqu'il descend, il casse les Louchot parce qu'il observe les Juifs en train de faire la faute du Vaudor. Suite à cela, il remonte encore une fois 40 jours et 40 nuits pour obtenir le pardon divin. Et puis après, il remonte une troisième fois 40 jours, 40 nuits, et c'est effectivement le mois de Elul et les 10 premiers jours du mois de Tishri. Et pendant ces 40 jours, il reçoit les deuxièmes tables, les Luchot Acharonot. Simplement, lorsqu'il est monté la deuxième fois, c'était pour obtenir le pardon divin, il a obtenu le pardon, mais un pardon arraché, c'est-à-dire où Hachem disait « Bon, je pardonne, j'accepte de ne pas détruire le peuple juif », mais ce n'était pas avec tout l'enthousiasme. Et lorsque, à la fin des troisième 40 jours, c'est le 10 Tishri, Yom Kippour, « Salarti kidvarecha », là, c'est un pardon total, Hachem vraiment efface, oublie la faute du Vaudor. Et ce jour-là a été fixé pour les générations à venir, le jour du grand pardon, le jour de Kippour, puisque c'est le jour où Hachem nous a pardonné la faute du Vaudor. Mais pour obtenir ce pardon, il a fallu passer 40 jours au milieu pour obtenir un premier pardon, et encore 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables et obtenir le pardon définitif et donné avec joie par Hachem. D'où la fête de Kippour. Donc, le mois d'Elul, ça correspond à ces 40 jours de prière pour obtenir les deuxièmes tables. Mais ce qui est important de retenir, entre autres, c'est que le premier jour où Moshe monte sur la montagne, les Juifs vont sonner le shofar. Ils vont sonner le shofar, pourquoi? Ce n'est pas encore Rosh Hashanah, on est 30 jours avant Rosh Hashanah. Ils sonnent le shofar pour ne pas se tromper. Je m'explique, les premiers 40 jours, il y a eu l'erreur. Ils se sont trompés de jour, ils pensaient que Moshe devait descendre de la montagne le 16 Tammuz. En fait, non, ils s'étaient trompés, ils devaient descendre le 17 Tammuz. Ils se sont trompés de 24 heures. Pour ne pas réitérer la même erreur, ils sonnent le shofar pour dire « aujourd'hui, c'est le premier jour ». Attention, ne pas se tromper, on compte un jour à partir de maintenant. Et donc, ils prennent des précautions pour ne pas refaire la même erreur que la première fois et qui a été une catastrophe, la perte définitive des premières tables. Et même si on a reçu les deuxièmes tables, il n'y a absolument aucune comparaison entre les premières et les deuxièmes. Ce n'est pas du tout le même niveau, même si c'est une chance et un grand effort, entre guillemets, de la part d'Hachem de nous avoir offert les Louchot malgré la faute. N'empêche, ce n'est pas du tout la même chose que les premières. Donc, pendant ces 40 jours, le peuple juif doit apprendre de ce qui s'est passé à l'époque de Moshe. De la même façon qu'à l'époque de Moshe, on a su mettre des garde-fous, c'est-à-dire sonner le shofar pour se rappeler, mais c'est un symbole, pour tout le reste également. Les Juifs, pendant ces 40 jours, racontent nos sages, étaient particulièrement motivés dans leur teshuvah. Tous les jours, ils priaient, ils attendaient ce grand moment de recevoir les deuxièmes tables malgré la terrible faute du Vaudor. Et donc, c'est resté des jours particulièrement de miséricorde tout à fait particulière, parce que, justement, à ce moment-là, les Juifs, dans leur attitude, ont mérité de recevoir les deuxièmes tables, et le monde de la Teshuvah s'est mis en place, où malgré la faute originelle du peuple juif, qui est la faute du Vaudor, Hachem pardonne, le peuple juif arrive à obtenir le pardon divin. Et donc c'est pour nous une grande chance et une fenêtre unique dans l'année où Hachem dit « Ani le dodi, ve dodi li ». C'est-à-dire « Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi », c'est les premières lettres, c'est Aleph de Elul et le Lamed, le Vav et le Lamed de l'Elul, donc les premières lettres acrostiches forment le Elul. Et ensuite, les dernières lettres, Ani, ça se termine par un Yud, le Dodi, ve Dodidi, c'est chaque fois un Yud à la fin, quatre fois Yud, Yud c'est valeur numérique 10, c'est donc 40, une allusion à ces 40 jours, où Hachem s'appelle Dodi. Dodi, c'est mon bien-aimé. C'est le terme utilisé par Salomon, Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim. C'est-à-dire qu'il y a une relation très forte d'amitié entre HaKadosh Baruch Hu et son peuple pendant cette période. Donc Hachem nous dit voilà, non seulement c'est une chance, mais c'est aussi, malheureusement aussi, une obligation. Parce que comme Hachem nous propose de se rapprocher de lui et qu'il nous donne une fenêtre, le fait de ne pas l'utiliser, de ne pas saisir cette chance, cette opportunité, peut se retourner contre nous. Parce qu'Hachem dit « Je vous ai donné une opportunité et vous ne la saisissez pas ». D'où l'importance pendant ces 40 jours de multiplier les prières. Et c'est pour cela que dans les communautés séfarades, on commence à dire le slichot depuis hier. Dans les communautés ashkénazes, c'est que 4 jours cette année, 4 jours avant Rosh Hashanah. Mais tout le monde est d'accord que pendant cette période, c'est shoftim veshotrim titencha. Il faut mettre des garde-fous. Je vous rappelle qu'un des enseignements de la paracha de cette semaine, c'est l'interdiction. Lotasur mikol asher yorucha yamin usmol. Il faut respecter les paroles de nos sages. C'est-à-dire que déjà, dans la Torah, il était prévu que des sages allaient mettre des barrières, des garde-fous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les xérot et les takanot, les décrets, et ce qu'ont instauré nos sages, qui sont en fait des garde-fous pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah. Ils ont mis donc des barrières. Et ça, HaKadosh Baruch Hu, dans la paracha de cette semaine, nous dit « ne te détourne pas ». De ce qu'ils t'enseigneront. C'est-à-dire qu'il faudra accepter ces barrières, ces règles, ces interdits qui, en priori, sont rajoutés par les sages. Parce que Hachem a dit, vu que le monde va durer, Bézat Hachem, 6000 ans, les époques ne sont pas toutes les mêmes, il n'y a pas les mêmes épreuves dans chaque époque. Les sages de chaque époque évalueront ce qui est nécessaire de faire pour que les gens se protègent de la transgression des paroles de la Torah. Merci à tous de ce réveil du mois de Elul. Shofti v'shotrim titanecha v'chol shearecha. Qu'Hachem fasse qu'il voit tous nos efforts pour nous amener, Bezrat Hachem, une année nouvelle qui sera très très différente de l'année dernière et qui verra la libération des otages, la fin de la guerre, la guérison de tous ceux qui sont blessés, etc., etc. Nous avons besoin de tellement de choses que nous espérons bien avoir Rosh Hashanah déjà, mais en tout cas se préparer à Rosh Hashanah pour que ce soit décidé pour l'année d'après.
Rav Guay, merci. On va déjà essayer de réfléchir, c'est déjà bien pendant ce mois-ci, à tout ce que vous venez de nous dire, réfléchir à tout ça. Je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
De vous dire à toutes et à tous Shabbat Shalom.
Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmorihi, Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmorihi, Shav shokat shoy bay.